la réflexion éthique n'appartient ni aux experts, ni aux politiques, ni aux citoyens, mais elle appartient à une construction commune, et c'est là où j'évoque en effet l'enjeu de ce que peut être une première étape de démocratie sanitaire à propos de ces sujets éthiques. Et sur le fait que les grandes valeurs existent, bien sûr qu'elles existent, mais on doit tenir compte, et c'est là tout l'enjeu de la bioéthique, à la fois des avancées de la science, et toute la science n'est pas bonne à prendre à un temps donné, mais aussi des avancées de la société. Je suis là avec le CCNE pour constater que l'équilibre à trouver, l'équilibre de la bioéthique, c'est entre les avancées scientifiques et ces avancées sociétales, et la cinétique de ces avancées n'est pas la même.
La voix du professeur Jean-François Delfrécy, président du comité consultatif national d'éthique. L'invité de la grande table aujourd'hui est biologiste, directeur de recherche honoraire à l'INSERM et président d'honneur de Sciences Citoyennes, spécialiste des enjeux liés à la procréation et auteur de « Le vivant manipulé », c'était en 2003, ou encore de « OGM, quel risque ?» en 2007. Depuis une trentaine d'années, le père scientifique du premier bébé éprouvette français, en 82, nous met en garde contre les avancées incontrôlées de la science. Aujourd'hui, il prévient, nous allons vers une humanité à deux vitesses, et il appelle à préserver notre espèce d'un eugénisme de masse. Dans Au péril de l'humain, son nouvel essai coécrit avec Agnès Rousseau qui paraît au seuil, Jacques Testard pointe les promesses suicidaires des transhumanistes et les inégalités à venir. Réparer l'homme, mais aussi l'améliorer grâce aux technosciences. Jacques Testard s'inquiète de ce mouvement qui décrit un humain en transition, toujours en bonne santé, à l'intelligence inédite et à la longévité décuplée. De ce projet qui ambitionne de prendre le relais de l'évolution pour construire un humain libéré des servitudes corporelles. Le transhumanisme porte en lui, écrit-il, une vision globale du monde et du devenir de l'homme avec un caractère messianique qui façonne les grandes orientations de la recherche dans nos sociétés. Alors sommes-nous en train de vivre un moment de rupture ou sommes-nous dans la continuité du progrès? On en parle avec notre invité jusqu'à 13h30, Jacques Testard, bonjour.
Bonjour.
Alors que la première étape des états généraux de la bioéthique vient de s'achever, vous vous appelez à rééquilibrer ces deux pôles, le bio et l'éthique, à faire marcher le progrès sur ces deux pieds. On ne questionne pas suffisamment, à vos yeux, l'usage qui peut être fait de ces technologies nouvelles?
Oui, effectivement, on a tendance à penser que tout ce qui est nouveau est forcément bénéfique. Donc on englobe tout ça sous le nom de progrès, qui est abusif, parce que un progrès technique n'est pas forcément un progrès humain. Et comme disait Delfrécy dans la présentation, le président du comité d'éthique, il faut arriver à accorder le progrès en biologie médecine avec la morale, avec la culture, avec tout ça. Bon, effectivement, il faut y arriver, mais on ne peut pas dire que tout ça, ça joue à égalité, c'est-à-dire que le progrès technique a nettement un avantage. Il a des séductions d'abord, parce qu'il promet des choses, même s'il ne les tient pas, il les promet, et les populations y sont sensibles, et puis il a des moyens. Il a des moyens importants de faire connaître, de faire sa propagande, et finalement il donne à rêver. Alors face à cela, la culture a beaucoup de mal à résister, évidemment.
À vous lire, il y a quand même un problème de déséquilibre aujourd'hui. C'est une bioéthique un peu boiteuse qui avance cas un cas, ou plutôt même très rapidement. L'éthique passe largement après le bio. C'est-à-dire qu'on a du mal à suivre le rythme de ces avancées technologiques et du mal à se poser les bonnes questions, celles qui nous permettraient d'éclairer ces avancées technologiques et de se demander quels enjeux elles portent en elles pour la société.
Oui, en fait, on assiste plutôt à l'acclimatation des techniques, c'est-à-dire que toutes les modifications des règles bioéthiques, donc le comité d'éthique là va rendre un rapport comme il a fait il y a 7 ans, qui devrait éventuellement modifier les lois de bioéthique, mais on s'aperçoit que ces modifications, depuis la première loi de bioéthique en 1994, toutes ces modifications vont toujours dans le sens d'une permissivité accrue. On libéralise l'éthique. Donc c'est quand même, c'est pas tout à fait comme s'il y avait une balance entre la morale culture d'un côté et puis le progrès, la science de l'autre. C'est toujours le même qui l'emporte, comme je disais tout à l'heure. C'est toujours le même qui l'emporte, donc finalement c'est juste une question de vitesse. Et je crois pas que la bioéthique soit un moyen d'empêcher que les techniques se vulgarisent, se généralisent, du moment qu'il y a un marché pour ça. Je crois que la bioéthique n'est pas compétente pour empêcher ça.
C'était les enjeux de ces états généraux de la bioéthique, redonner la parole aux citoyens, faire un point sur le progrès technique et technologique et demander, consulter les citoyens de manière démocratique pour voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à tout ça.
Il faudrait savoir ce que veut dire de manière démocratique, parce que finalement, ça se ramène essentiellement à deux choses, ce rapport aux citoyens. D'une part, les débats publics, dans lequel les porteurs d'intérêt, là en l'occurrence c'était plutôt les gens de la Manif pour tous, qui sont venus perturber les débats ou essayer de faire passer leurs idées, ce qui est le jeu finalement. Par ailleurs, un comité citoyen qui a dû être tiré au sort, j'espère, et qui a reçu une formation dont on ne sait pas grand-chose, pour l'amener à comprendre et à rendre un avis sur certains aspects des problèmes de bioéthique aujourd'hui. Donc, est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'on a rencontré les citoyens ? On a d'une part rencontré des gens qui allaient en avant, qui se proposaient, qui étaient volontaires, c'est-à-dire des porteurs d'intérêt finalement, d'intérêt idéologique ou matériel, mais des porteurs d'intérêt. Ça, c'est ce que fait en général le débat public. Et puis, avec ce comité citoyen dont les règles sont tout à fait floues, on n'a pas répondu aux questions auxquelles peut répondre la conférence de citoyens qui, elle, est bien définie. C'est-à-dire que dans la conférence de citoyens, il y a une formation contradictoire des gens qui ont été tirés au sort. Et dans la durée, ces gens-là peuvent poser des questions, obtenir des réponses et discuter entre eux. Je ne sais pas du tout comment s'est passé ce comité citoyen. Pourquoi avoir inventé une nouvelle structure comité citoyen ? Ça correspond à rien de ce qu'on connaît. Donc ça donne un peu de méfiance par rapport à l'aspect démocratique de cette formule.
Mais par exemple, vous êtes, Jacques Testard, toujours plutôt montré réticent à l'ouverture de la PMA, je parle même pas de la GPA. Si là, demain, aujourd'hui, il est acté que la PMA puisse être ouverte aux couples, de femmes et aux femmes seules, pour vous, ça, ce sera juste l'influence des porteurs d'intérêt, c'est pas que les mentalités ont évolué et que la société est prête pour une conception un peu plus extensive de la PMA ?
Je ne sais pas s'il est... C'est évident que les gens évoluent. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'ils ont reçu le côté contradictoire ? Moi, j'ai écrit quelques petites choses sur la PMA pour toutes. Je ne vois pas du tout que ce soit dans le débat. C'est pas ça qu'on met dans le débat. Ce qu'on met dans le débat, c'est toujours des histoires merveilleuses de gens qui viennent aider, d'altruisme. Je ne sais pas si c'est dans la réalité.
Il y a des arguments, vous, qui pourraient vous faire changer d'avis sur ce sujet-là, qui pourraient vous faire évoluer ?
C'est pas tellement des arguments, parce que moi, je pense être profondément démocrate. Ce qui me ferait changer d'avis, c'est si une procédure véritablement démocratique disait que j'ai tort. Alors, je dirais j'ai tort. Mais là, je peux pas être convaincu par ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que tout ça est un peu mystérieux, c'est pas transparent, et on se demande pourquoi ces détours, par exemple, par rapport à la conférence de citoyens, pourquoi inventer des choses comme si c'était pour être certain d'obtenir un résultat.
Jacques Testard, dans « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes », vous réglez donc leur compte plutôt à ces transhumanistes, à ce mouvement qui est né maintenant il y a plus d'une quarantaine d'années et qui prend de l'essor, à ces fausses promesses qui sont formulées par la voix de leurs représentants. De quoi parle-t-on exactement ? Il y a une formule de Luc Ferry qui résume assez bien l'état, qui fait une sorte d'état des lieux de la situation. « Rien n'est désormais impossible ». Vous reprenez ces avancées qui groupe autant les organes artificiels que les exosquelettes pour le soldat ou l'ouvrier du futur, les cyborgs chargés de puces électroniques, aux tentatives de développement de l'immortalité jusqu'aux mutations génétiques les plus eugénistes. Vous donnez à voir ce que ces progrès, ces avancées technologiques vont nous permettre de faire. L'ampleur de cette révolution pour vous, Jacques Testard, elle est difficilement perceptible à l'œil nu et pourtant, même si elle nous échappe, c'est surtout à la régulation qu'elle échappe aujourd'hui ?
Non, je ne suis pas d'accord avec Luc Ferry. En l'occurrence, on ne peut pas dire que rien n'est désormais impossible. Il y a plein de choses impossibles. Par exemple, des immortels, c'est sûrement impossible définitivement. Mais ce qui est impossible encore aujourd'hui, c'est d'être en bonne santé continue, même avec des nanorobots implantés dans le corps. Tout ça fonctionne pas bien. Ce qui est impossible, c'est des modifications génétiques qui fonctionneraient bien comme on veut, qui n'auraient pas d'effets secondaires et qui seraient bénéfiques. C'est pour le moment impossible. Autrement dit, on peut dire que rien n'est impossible à condition de sacraliser la promesse comme si elle était une réalité. Moi, c'est ce que je combats justement dans le bouquin. C'est de dire, on nous raconte un peu n'importe quoi, on nous fait rêver, parce que finalement ce transhumanisme, c'est une idéologie assez infantile, qui reprend tous les vieux mythes de nos cultures, hein, chez les Grecs, les Égyptiens, bon, il y a toujours eu ces mythes d'être immortel, d'être plus fort, plus intelligent, donc les gamins y croient encore, mais les adultes devraient se méfier quand même un peu. Alors pourquoi ça marche actuellement et pourquoi c'est repris? Parce qu'il y a effectivement depuis quelques dizaines d'années des progrès considérables dans les biotechnologies en particulier, dans l'informatique, qui peuvent laisser croire que grâce à ces progrès-là, eh bien on va donner réalité aux vieux mythes. Mais faire le pas, ça me paraît assez audacieux.
Sur cette question de l'immortalité, qui n'est pas encore concrétisable aujourd'hui, mais qui fait partie du projet, qui fait partie du rêve, Jacques Testard, vous interrogez aussi notre fascination morbide. Avec le projet de considérer les machines comme des personnes à part entière, nous arrivons au comble de la honte prométhéenne qu'analysait le philosophe allemand Günther Anders, écrivez-vous, l'humiliation des hommes devant les performances des machines qu'ils ont conçues. Symptomatique plus qu'anecdotique, vous donnez l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a accordé en octobre dernier, la nationalité saoudienne, un robot humanoïde, Sophia. Pourquoi? C'était quoi cet exemple?
Pourquoi cet exemple, vous voulez dire?
Non, qu'est-ce qu'il racontait, cet exemple? Pourquoi ils ont choisi de lui donner la nationalité?
Vous savez, en même temps, c'est dans ces pays du Golfe où on veut faire les gratte-ciels les plus hauts du monde. Enfin, il y a des ambitions. Bon, il y a des moyens matériels et il y a des ambitions de donner des leçons au monde entier. Donc c'est assez significatif quand même.
Qu'est-ce que ça dit de nous?
Ça dit de nous que nous ne sommes que des machines et que avec des moyens techniques et financiers, eh bien on peut arriver à fabriquer des personnes nouvelles. Mais il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite, hein. Il y a quand même la commission juridique du Parlement européen qui a décidé de donner une personnalité juridique aux robots, quand même. Donc ce serait des personnes numériques. Mais des personnes, ça c'est quand même aussi assez abusif. Je crois qu'il y a une mythologie qui plane là-dessus, et les paroles de Luc Ferry tout à l'heure, mais de beaucoup d'autres, renforcent ça, en laissant croire que tout ça est déjà dans la réalité, et que tout ça modifie. Alors en fait, ces robots, enfin on va j'imagine parler un peu d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle n'existe pas. Toute intelligence est naturelle, elle n'est pas que chez l'homme. Elle est chez beaucoup d'animaux, certains disent qu'on peut même la trouver chez les plantes. Mais en tout cas, chez les plantes, c'est peut-être abusif, mais pas plus de dire que les plantes sont intelligentes que de dire que des machines sont intelligentes. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a c'est plutôt des réflexes appris. Alors avec les machines, c'est des réflexes très rapides, un peu compliqués, mais c'est jamais que on a rentré dans la machine des façons de répondre à une question. Et pour chaque question, il faut une machine différente. Donc on est très loin d'abord d'avoir une intelligence logique complexe, mais en plus on reste dans une intelligence logique. C'est-à-dire que l'affectivité, enfin tout ce qui fait, pas seulement l'homme, mais aussi chez les animaux, les relations entre les individus, tout ça est complètement ignoré. Donc de faire croire qu'on a déjà dépassé ce stade et qu'on va créer, d'après Kurt...
Kurzweil, on va arriver
en 2045 à un moment où l'intelligence des machines aura dépassé l'intelligence humaine. C'est une promesse. On a beaucoup de mal, si vous voulez, à juger ces promesses et à les critiquer, parce que tout ça est dans l'avenir. Il n'empêche qu'il y a un transhumaniste britannique qui avait promis la télépathie pour 2015. Il avait promis ça il y a 15 ans. On est en 2018, on n'a toujours pas la télépathie. Donc on commence à voir, quand le temps passe, que les promesses sont quand même bien au-delà des réalités.
Alors écoutons justement les promesses portées par Raymond Kurzweil, le pape du transhumanisme, gourou recruté par Google pour plancher sur l'intelligence artificielle.
On m'a diagnostiqué un diabète de type 2, comme mon père. Je l'ai surmonté. Je n'ai plus de symptômes de cette maladie depuis 25 ans. Je suis en excellente santé. Je n'ai pas de problème majeur. Mon gros orteil est légèrement raide, mais je suis en parfaite santé. Nous sommes l'espèce qui transcende l'ordre naturel, celle qui dépasse l'ordre naturel. On n'est pas resté au sol, ni même sur Terre. On ne s'est pas restreint à nos limites biologiques. Aucun animal n'a accompli cela. L'homme est unique. Il transcende. Il surmonte ses problèmes. Il est plus qu'une pêche sur un arbre. Difficile d'imaginer son 500e anniversaire. Les gens pensent en se disant « bon sang, ça les déprime, vivre 500 ans, la vie va être d'un ennui ». Ils voient leur quotidien et le projettent sur 500 ans. Ce n'est pas ça. On sera plus drôle, plus sexy. On aura des corps et des mondes virtuels modulables. Ils n'auront pas l'air de jouer, ils seront réalistes. Nous allons décupler ce que nous sommes, et ce, d'ici 50 ans.
Alors là, vous avez un condensé de tout ce qui vous crispe particulièrement en ce moment, Jacques Testard. Comme souvent dans la bataille des idées, ça commence par une guerre des mots. Et vous, vous avez choisi de développer, avec d'autres, un contre-discours à ce storytelling transhumaniste. Sur quel type d'arguments reposent ces discours arrangés des transhumanistes, voire mensongers ?
Ben, comme je disais, ça repose beaucoup sur les progrès depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les progrès énormes, faramineux, des biotechnologies, de la génétique, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de l'informatique, des nanotechnologies. Bon, il y a eu là des choses extraordinaires qui ont été accomplies. Et à partir de là, on se donne, enfin ceux qui défendent le transhumanisme, se donnent le droit de prétendre que ça va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Donc... voilà, c'est à partir de ça. S'il n'y avait pas ces progrès, ce serait pas crédible. Ce serait comme toutes les légendes d'antan. On les entendrait, mais on dirait c'est sympa, c'est des légendes. Alors que là, on arrive à nous faire croire que ça va être comme ça.
Oui, la principale victoire pour vous, c'est d'avoir réussi à nous convaincre que la révolution transhumaniste est inéluctable, qu'elle arrivera.
Alors, ce qui va arriver, ça arrive déjà. Il y a déjà des objets, des gadgets qui sont distribués abondamment dans la société. Pense aux téléphones portables, aux choses comme ça, qui nous font accéder effectivement à des choses, à des pouvoirs nouveaux, des pouvoirs de communiquer, des pouvoirs de savoir à tout moment. Tout ça se développe assez vite, même très vite. Est-ce qu'on est déjà dans le transhumanisme ? On pourrait dire on est dans une projection transhumaniste. Mais est-ce que le post-humain, tel qu'il est décrit par Kurzweil et par d'autres, est-ce que le post-humain va vraiment exister ? Est-ce que cet individu dont le cerveau sera connecté à des machines, qui sera jamais malade et qui vivra 5 siècles ou davantage, est-ce qu'il va exister ? C'est une autre question. Mais alors, ce qu'il faut se demander, c'est si ça n'existe pas, alors on peut dire, bon, bah tout ça, c'est des histoires, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que malgré tout, ça modifie les individus et surtout les sociétés. Donc on ne sortira pas indemne, même des échecs transhumanistes. On ne sortira pas indemne. C'est pourquoi il faut quand même s'en préoccuper et répondre.
Vous dites Kurzweil et les autres. Qui sont les autres ? Qui sont aujourd'hui les figures, les porte-paroles de cette idéologie, de ce mouvement ?
Oh, bah, y en a plein. Il y a Kevin Warwick. Les noms, là, je ne les ai pas tout de suite à la tête, mais disons qu'il y en a une dizaine. Et qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Par exemple, Kurzweil, tout à l'heure, avait l'air de dire que l'homme était un animal assez extraordinaire. Il avait réussi à guérir son diabète. Et que... Bon, beaucoup de transhumanistes pensent au contraire que l'homme est minable, n'a pas d'intérêt. Et donc, par définition, il faut refaire son évolution.
Mais ce sont des individus, presque, en tout cas, mais isolés, des individus, des scientifiques éclairés, ou ce sont, comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour les débats sur la bioéthique, des porteurs d'intérêt. Qui soutient ce mouvement-là ? Qui a intérêt à foncer dans ce
mouvement ? Les moyens énormes qui sont donnés dans la Silicon Valley aux chercheurs en transhumanisme, dans les différentes voies, hein, que ce soit l'informatique, l'intelligence, la génétique, bon, ces moyens énormes, ils viennent pour beaucoup des GAFA, hein, de Google, Apple, Facebook et compagnie. Kurzweil lui-même est un employé de ces firmes-là. Et puis, ils sont donnés aussi par l'armée américaine, par exemple. Donc ils sont donnés par beaucoup de structures très très riches, auprès desquelles en France, on n'a absolument pas l'équivalent. On est tout petit, on peut rien faire. Donc il n'y a que les Chinois qui pourraient concurrencer les Américains là-dessus. Mais il est évident qu'il y a des moyens énormes et qu'aujourd'hui les recherches les mieux financées, c'est celles-là, mais y compris chez nous. C'est-à-dire que s'il y a un projet d'intelligence artificielle en France, bah, tous les scientifiques qui peuvent trouver leur place là-dedans vont courir pour obtenir les sous, parce que la recherche a de moins en moins de moyens. Donc quand on a une issue comme celle-là, c'est formidable.
J'en reviens à cette guerre de l'information, Jacques Testard. Quand vous signez une tribune le mois dernier dans Le Monde intitulée « Halte aux fake news génétiques », est-ce que cette tribune va dans le même sens que ce que vous nous expliquez là, c'est-à-dire la peur de l'instrumentalisation des données, alors en l'espèce ici génétique, pour essayer de soutenir un mouvement qui n'est plus interrogé en termes sociétal et culturel?
Oui, bien sûr, ça va dans ce sens, et puis ça va un peu dans un autre sens. Par exemple, il y a quand même un éditorialiste important en France qui s'appelle Laurent Alexandre, et qui laisse entendre qu'il y a des différences d'intelligence entre les riches et les pauvres. Bon, c'est pas nouveau, il l'a pas inventé. C'est un truc qui traîne depuis des siècles et qui est à la base des théories de l'eugénisme. Donc, ce qu'on a voulu dans ces tribunes, c'est effectivement mettre en demeure ces gens qui racontent un peu n'importe quoi, de prendre en compte les réalités de la science et de ne pas utiliser n'importe quelle donnée un peu aventureuse pour refabriquer des théories qui, quand même, ont une signification sociale qui est importante.
Elle est là, cette société, cette humanité à deux vitesses que vous craignez de voir advenir, Jacques Testard ?
Au bout du compte, on pourrait dire que ceux qui auront accès à beaucoup de... Bon, même si ça marche pas, parce que quand même j'insiste, moi je veux pas être dupe de la chose, mais même si ça marche pas comme ils le disent, comme ils le promettent, il y aura malgré tout des effets. Par exemple, des effets sur la santé, certainement. Mais ce sera réservé à qui? Quand vous voyez actuellement, par exemple, qu'une thérapie génique, ça coûte à peu près 500 000 euros. Bon, si vraiment la thérapie génique se mettait à marcher, parce que pour le moment, ça marche pas vraiment, faut quand même le reconnaître. Si ça se mettait à marcher, ce serait pas donné à tout le monde. La sécurité sociale pourra jamais couvrir des choses pareilles. 500 000 euros par personne et par maladie. Donc, il est évident que tout ça serait réservé à des individus qui ont les moyens. Donc ce sera peut-être les enfants de Monsieur Google, Apple et compagnie, et quelques autres, mais ça peut pas être pour tout le monde.
Jacques Testard est notre invité jusqu'à 13h30. Il est 13h presque 20 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Jacques Testard qui co-signe en ce moment avec Agnès Rousseau « Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes », un ouvrage qui paraît dans la collection Sciences ouvertes au Seuil. Dans cet ouvrage, Jacques Testard, vous nous rappelez que toutes ces innovations ne sont pas neutres. En quoi sont-elles aussi politiques?
Elles sont politiques, on vient de le dire, parce qu'elles ne seront pas données à tout le monde. Donc elles sont destinées à une certaine classe. Et elles sont politiques parce que finalement, elles reproduisent cette idée qui est très dangereuse aujourd'hui, mais que le développement industriel, qui est quand même, qui fait partie de la sphère politique, le développement industriel, le néolibéralisme, le capitalisme, vont nous permettre de vivre mieux. C'est une idée qui est un peu battue en brèche depuis quelques années, puisqu'on voit qu'après les progrès des Trente Glorieuses, on est plutôt en récession. Il y en a de plus en plus de chômeurs, il y a des nouvelles maladies qui arrivent, bon, il y a plein d'ennuis. La durée de vie, contrairement à ce qu'on raconte, a plutôt tendance à diminuer, la durée de vie en bonne santé. Bon, donc il se passe des choses quand même, on dirait qu'on a atteint une frontière avec ce système et qu'il est en train de retomber. Et là, le transhumanisme offre une issue en faisant rêver, en disant continuons encore plus vite dans la même direction, sans dire on va aller dans le mur, mais en disant on va passer par-dessus le mur, grâce à la technologie. Donc c'est une conception très politique quand même.
Dans la révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies, paru chez Plon en 2016, le philosophe Luc Ferry, dont vous ne partagez pas l'enthousiasme, Jacques Testard, revenait aux sources politiques, idéologiques de ce mouvement.
La plupart des transhumanistes sont à l'origine des libertariens. C'est en fait, c'est une trajectoire que vous connaissez bien, qui est très classique. Ce sont des gauchistes individualistes, c'est-à-dire des gauchistes qui sont passés à l'ultralibéralisme, qui est une trajectoire très, très attestée, d'ailleurs, aussi bien en France qu'aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis. Et donc, en effet, il y a une dimension ultralibérale et très individualiste dans le mouvement transhumaniste. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est financé par des firmes comme Google, qui sont pas spécialement collectiviste et de gauche. Donc oui, il y a un aspect. Et en même temps, il y a aussi un côté social-démocrate, parce que c'est pas simplement ultra-libéral, il faut pas être simpliste sur le projet politique transhumaniste. Oui, il y a une dimension hyper-individualiste, vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi une dimension social-démocrate, on l'a évoqué dans la dernière émission, c'est le fameux « from chance to choice », c'est-à-dire l'idée de passer de la correction des inégalités sociales à la correction des inégalités naturelles, de corriger l'injustice justice génétique, si je puis dire. Et donc ça, c'est plutôt un projet égalitariste et social-démocrate. D'ailleurs, la question des inégalités économiques se posera. Les inégalités économiques, elles ne dureront pas forcément aussi longtemps qu'on le croit, parce que c'est une objection qu'on fait souvent aux transhumanistes. On dira, ah oui, mais il y aura plusieurs humanités, il y aura les riches qui pourront se payer l'augmentation, et puis les pauvres qui demeureront dans l'humanité traditionnelle. Oui, peut-être ça existera, mais pas autant qu'on le croit. Et le projet transhumaniste, oui, il est à la fois très individualiste, mais aussi soucieux d'égalité, donc aussi social-démocrate.
Vous pourriez presque être d'accord avec
oui,
Luc Ferry.
Presque, sauf la fin.
Sur la question de la social-démocratie
oui,
ou le projet égalitariste.
On ne voit pas sur quoi il base son espoir que il n'y aura pas une société à deux vitesses et que ça veut dire quoi, que ça va coûter, ça coûtera rien de faire toutes ces choses-là, ou bien qu'on aura des moyens. On ne voit pas lesquels, des moyens inespérés qui permettront d'offrir à tout le monde ces techniques.
Donc, mais si on réintègre de l'éthique dans le bio ou dans la technologie, peut-être qu'on va pouvoir se servir de toutes ces avancées pour en faire un outil égalitaire. Vous avez plus confiance en la nature humaine pour faire un bon usage de toutes ces technologies?
Et il ne s'agit pas de nature humaine, il s'agit de systèmes politiques qui cherchent des gains très rapides. Et là, les technologies transhumanistes sont tout à fait propices à ça, pour des gains très rapides, et sans se préoccuper de ce qui va arriver après. Mais je crois que ce qui est vraiment dramatique, c'est qu'on juge tout ça comme si c'était un moment de l'histoire qu'on a déjà vécu plusieurs fois. On a vécu l'invention de la machine à vapeur, l'électricité, les métiers à tisser. Il y a toujours eu des gens qui ont rouspété, qui se sont inquiétés. Donc c'est pareil. Non, on est dans une situation tout à fait différente. Si on prend au sérieux les promesses de Kurzweil et des autres, c'est 2045-2050, c'est dans 30 ans. Ça. Et puis d'un autre côté, si on regarde les changements climatiques et qu'on écoute le GIEC, c'est aussi déjà dans 30 ans qu'il y aura certainement une situation presque invivable.
Jacques Testard, vous êtes à la gauche des gauches sur ces questions-là. Vous êtes plutôt classé conservateur, voire bio-conservateur, en rupture avec les positions officielles de la France insoumise, dont vous avez plutôt soutenu le programme à la dernière présidentielle, et avec celle des écologistes, dont vous partagez assurément la sensibilité. Vous êtes un anti-moderne sur ce sujet?
Si anti-moderne, c'est se méfier de tout ce qui est nouveau et de penser que c'est pas forcément bien, je veux bien. En tout cas, je suis classé comme bioconservateur, comme beaucoup d'autres qui parlent les transhumanistes. Donc effectivement, pour moi, c'est nouveau. C'est nouveau d'être mis dans cette case-là, puisque j'ai toujours été à l'extrême gauche, et je crois que je le suis toujours. Mais est-ce qu'il faut absolument suivre toutes les modes pour pouvoir dire qu'on est moderne?
Et le Emmanuel Macron sur ce sujet, vous le sentez où? Un rapport vient d'être remis sur l'intelligence artificielle par Cédric Villani, qui dit aussi d'ailleurs que l'intelligence artificielle est 100 fois plus bête pour l'instant que l'intelligence humaine, qui rappelle que justement cette intelligence artificielle, comme vous venez de le faire, naît de l'intelligence humaine. Emmanuel Macron, qui est plutôt un technophile, mais qui sait aussi replacer l'éthique dans certains questionnements, vous pensez qu'il a une position déjà affirmée sur ce sujet?
Oui. Oui, je pense qu'il est tout à fait de ce côté-là. Que les débordements dont on parle transhumanistes, ils sont pas pour tout de suite. Donc Emmanuel Macron, il est président en ce moment, mais dans 20 ans, il sera pas président. Autrement dit, il peut prendre des mesures comme ça de précaution dans le discours, mais il a commencé, il a donné quand même 1,5 milliard à l'intelligence artificielle. Donc, avec le titre du rapport de Villani, qui est « Donner du sens à l'intelligence artificielle ».
Mais vous ne dites pas qu'il ne faut pas la développer, l'intelligence artificielle.
Je ne sais pas, il faut s'interroger là-dessus. Il ne faut pas dire « c'est formidable, même si pour le moment ça ne marche pas très bien, on va développer des techniques, parce que c'est toujours la promesse, qui vont faire que ça va être extraordinaire ». Bah, tout ça, ça demanderait à être discuté. Il y a beaucoup de spécialistes de l'intelligence qui n'y croient absolument pas. Alors, est-ce qu'il faut mettre 1,5 milliard là-dedans, ou dans l'agriculture biologique, par exemple ?
Dans cet ouvrage, Jacques Testard, vous rappelez aussi que cette idéologie transhumaniste est presque une religion qui arrive à point nommé pour répondre au déclin des anciennes croyances collectives. Je vous cite, le transhumanisme est une idéologie de remplacement.
Oui, bien sûr, parce que bon, d'un côté, il y a la mort de Dieu quand même. Et puis d'un autre côté, le politique ne fait plus vraiment rêver. Alors ça peut être quelque chose de transitoire, je pense que la mort de Dieu elle est assez définitive, mais les rêves inspirés par des théories, par des propositions politiques, ça pourra revenir. En tout cas pour le moment il y a un trou, c'est clair, et le transhumanisme effectivement donne de l'espoir. C'est pourquoi je crois qu'il faut arriver à fabriquer des histoires concurrentielles.
Un contre-discours.
Un contre-discours, ouais. Pas seulement de raisonner, mais de donner quelque chose à rêver et pas seulement à craindre. Et là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais il y a des pistes quand même. Quand on voit, par exemple, l'acharnement avec lequel le gouvernement s'est débarrassé de Notre-Dame-des-Landes, qui est quand même, enfin, il s'est pas débarrassé complètement, mais assez largement, en envoyant des blindés, 1500 gendarmes mobiles, bon, contre quelques dizaines de types qui sont là et qui sont en train d'essayer de donner d'autres solutions au monde. Ceux-là sont pas dans le transhumanisme, bien sûr. Ils sont pas dans la consommation. Ils sont plutôt dans la décroissance. Ils sont dans la frugalité. Ils gênent personne. Et ils font des essais d'humanité. Donc, il vaudrait mieux multiplier des pôles comme ça, qui sont l'espoir, peut-être, de s'en sortir, plutôt que de continuer d'aller toujours plus vite.
Ils sont déjà là, existants, ces principes éthiques qui vont nous permettre de réguler ces nouvelles pratiques émergentes, ou ces principes aussi, il faut les inventer, Jacques Testard.
Moi, je pense qu'il faut surtout s'interroger si on accepte ces nouvelles pratiques. Si on les accepte ou si on les refuse. Or, c'est jamais posé, cette question-là. La question qui est posée, comment on va pouvoir vivre avec telle technologie? Mais est-ce qu'on a besoin de telle technologie pour vivre? C'est pourquoi j'évoquais les gens de la ZAD. Et il y en a dans tous les pays du monde, des gens qui essaient de former comme ça des groupes pour refaire un autre monde, un monde qui soit vivable. Et il y a urgence. Donc, c'est pas simplement un épiphénomène. C'est une expérience indispensable à mener aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on est en train de préparer ce qui se passera dans 30 ans et qui risque bien d'être la catastrophe.
Et dans cette croisade, en tout cas vous ne la menez pas seule, on se souvient notamment de cette tribune signée par plus de 700 scientifiques et chefs d'entreprise comme Elon Musk ou le physicien britannique décédé depuis Stephen Hawking à l'époque, appelant à faire attention sur les évolutions de l'intelligence artificielle et souhaiter que les futurs développements se fassent au bénéfice de la société. Un grand merci à vous, Jacques Testard, d'être passé autour de cette grande table. Au péril de l'humain, les promesses suicidaires des transhumanistes, cet ouvrage que vous avez coécrit avec Agnès Rousseau, vient de paraître au Seuil dans la collection Science Ouverte. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table qui a préparé et programmé cette émission, à Milena Heilig avec Pierrick Consigny qui l'a réalisé, Claire Maillot, Clémence Marie, Coppelia Ménardi, Maxime Morin avec Émile Boutelier. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle grande table. D'ici là, très belle après-midi. Midi à tous sur France Culture.